Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal grâce à Mzati.
À la une de l'actualité, la ville de Kinshasa accueille dès aujourd'hui la 9e édition des Jeux de la Francophonie. Mais à quoi ressemble le stade du Martyr qui va abriter la cérémonie d'ouverture? À suivre dans quelques instants. En Ituri, l'activisme des groupes armés a coûté la vie à plus de 900 personnes depuis le début de cette année, notamment dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Ainsi, un atelier sur la gouvernance minière est organisé pour établir les liens entre les conflits armés et l'exploitation des minerais afin de restaurer la paix. Ege Mapati, présidente de la Fondation Mapati, est l'invitée de ce journal. Elle va nous parler de l'arrêt des travaux de reconstruction du marché de Mayangosi à Beni, financé par le gouvernement central. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes vendredi 28 juillet. Aujourd'hui aura lieu à 18h, heure de Kinshasa, la cérémonie d'ouverture des 9e Jeux de la Francophonie au Stade des Martyrs. Les dispositifs sécuritaires sont renforcés et des points de contrôle sont placés à l'entrée, voire à l'intérieur du stade. Plusieurs sites sont sécurisés par la garde des républicaines notamment. Et hier jeudi soir, l'ambiance des Jeux était déjà visible. Fulbert Balolagui nous fait le point.
Contrairement aux jours qui ont précédé ce 28 juillet, l'accès au stade était plus fluide. Mais hier jeudi, véhicules, sacs, tout était contrôlé, passé au peigne fin. On peut voir des agents du service de gardiennage Delta Force commis à la garde dans tous les points d'entrée et devant les salles. Le nombre des agents de l'ordre et de sécurité a été augmenté. Toutes les personnes munies de leur badge entrent facilement dans l'enceinte du stade des Martyrs, alors que celles qui n'en ont pas sont soit priées de rebrousser chemin, soit de se conformer à certaines formalités pour avoir l'autorisation d'entrer à l'intérieur du stade. Plusieurs personnes s'activent pour finir les derniers réglages. Du regard, on aperçoit des stands, des tentes, des caméras, une impressionnante décoration aux couleurs de la francophonie. Des retours du stade des Martyrs, Fulbert Balolagué, Radio Okapi.
Justement, pour l'ouverture des Jeux ce vendredi au stade des Martyrs, nous voulons que tout le monde arbore son drapeau pour célébrer notre pays avec les autres qui viendront chez nous. Tel est l'appel lancé par le ministre de la Communication et des Médias au Kinoa mercredi au cours de la conférence de presse des lancements des Jeux de la Francophonie. Patrick Mouyaya souhaite une participation massive des Kinois à ces Jeux. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Je m'en voudrais de terminer ces propos sans dire, sans inviter justement les Congolais de Kinshasa spécifiquement ou de partout où ils se trouvent de prendre rendez-vous pour la grande cérémonie d'ouverture vendredi. Ces jours-là, parce que c'est le jour où le Congo va gagner, en tout cas, c'est le jour où le rêve va se concrétiser pour les débuts de jeu. Nous voulons que tout le monde arbore le drapeau. Nous voulons que tout le monde vienne, parce qu'il s'agit du sport. Madame Marilyn, je ne sais pas si vous avez votre vareuse léopard, mais munissez-vous de drapeaux, parce que ces jours-là, nous allons célébrer notre pays avec tous les autres pays qui viendront chez nous. Ceci dit, je vous souhaite des bons jeux, des bonnes compétitions, des bons moments d'évasion, mais aussi un très beau séjour dans notre capitale Kinshasa.
Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dans le même chapitre, attirer les chefs d'entreprise et les organisations afin de collaborer avec les étudiants, c'est l'objectif du Centre d'employabilité francophone et du campus numérique inauguré hier 27 juillet ici à Kinshasa en marge des 9e Jeux de la Francophonie. C'est ce qu'a déclaré Slim Kalbouz, recteur de l'Agence universitaire francophone, en marge de la clôture de la première conférence des recteurs chefs d'établissement francophone de l'Afrique centrale et Grand Lac. Selon lui, ce centre logé à l'Université de Kinshasa est dédiée à la préparation de l'insertion professionnelle des étudiants francophones et au développement des activités de l'entrepreneuriat. Slim Kalouz est au micro de Paul Matindo.
Ce centre d'employabilité francophone est un centre dédié à la préparation de l'insertion professionnelle des diplômés de l'université et puis également au développement des activités de l'entrepreneuriat. De l'autre côté, le campus numérique ajoute des formations sur l'usage des technologies dans l'éducation, mais aussi sur la formation des MOOC. Mais également, il y aura dans ce centre un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est-à-dire un laboratoire pour les maquettes, pour les chercheurs. Et tous ces services sont intégrés dans un seul espace qui est pensé de manière très professionnelle. L'aménagement est un aménagement comme une PME, comme une entreprise, et pas comme une salle de classe classique. L'objectif étant d'attirer les chefs d'entreprise, d'attirer les organisations, d'attirer les futurs employeurs de nos étudiants ici pour collaborer. Vous allez avoir des enseignants ici et des administratifs qui, eux, seront formés pour être des tuteurs, des coachs et accompagner ces étudiants. Mais aussi, la réussite d'un tel centre intégré de services demande la présence des futurs employeurs.
À la clôture de cette conférence, le recteur de l'UNIKIN, Jean-Marie Kayembe, a été élu président de la conférence des recteurs, chef d'établissement francophone de l'Afrique centrale et Grand Lac. Je l'ai dit dans les titres, en Ituri, plus de 900 personnes ont été tuées depuis le mois de janvier à juin par des groupes armés, notamment dans les territoires de Djougou, Irumu et Mambasa. Ces chiffres ont été publiés hier par le chef de bureau de la MONUSCO au cours d'un atelier sur la gouvernance minière organisé par Congo Peace Center. L'objectif est d'identifier les liens entre les conflits armés et l'exploitation des minerais qui alimentent les groupes armés en vue de restaurer la paix sur toute l'étendue de la province, conformément aux recommandations des accords de Nairobi. Ezekiel Muzalia.
Pendant deux jours, les experts miniers ainsi que les différents notables de Djougou et Mambasa réfléchissent autour des questions liées à la gestion et exploitation des minerais qui alimentent les groupes armés dans leurs entités respectives. Marc Carnassoro, chef des bureaux de la MONUSCO, indique que depuis le mois de janvier, plus de 900 personnes ont perdu la vie suite aux conflits armés qui sont dus à l'exploitation illicite des minerais. Il exhorte tous ses acteurs à conjuguer les efforts pour pérenniser les acquis de la MONUSCO, même après son départ de la RDC. Carnassoro.
Il y a un contact établi avec les acteurs de violence. Maintenant, il s'agit d'aller toucher le levier de cette violence. Que cet atelier nous permette vraiment d'aborder les causes profondes.
Selon le directeur général de l'organisation Congo Peace Center qui pilote ces projets, les recommandations qui sortiront de ces échanges seront déposées au bureau du secrétariat technique du processus de Nairobi, Blaise Bahissé.
Ces ateliers est un début de réponse à ces recommandations et que les conclusions, les résolutions de ces consultations à la base seraient versées au secrétariat technique du processus de Nairobi.
Le commandant de la 32e région militaire qui a représenté le gouverneur a demandé aux participants de mettre tout en œuvre pour briser la chaîne de l'exploitation illicite des minerais qui perpétue la violence. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Par ailleurs, en Nord Kivu, un incident sécuritaire impliquant les militaires des armées rwandaises et congolaises s'est produit hier dans la matinée à la frontière entre la RDC et le Rwanda. C'est précisément entre les bornes de démarcation 13 et 17 dans le village Rutagara, un groupement Bouvira, territoire de Nyiragongo. Le porte-parole de Sokola 2 parle des violations des limites par les militaires rwandais. Il confirme qu'un militaire rwandais a été tué lors des échanges de tirs. Le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko revient sur cet incident au micro de Denise Lukeso.
Les militaires rwandais ont pénétré, donc en traversant notre frontière, et se sont retrouvés sur le sol congolais au niveau de la borne 13 et 17. Ils se sont retrouvés sur le sol congolais et ont commencé à chasser les cultivateurs. Une fois alertés, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont commis à la protection de nos frontières sont allés à la rescousse de ces cultivateurs qui étaient chassés par l'armée rwandaise sur les sols congolais. Et du coup, l'armée rwandaise a commencé à tirer sur nos éléments. Et il s'en est suivi un échange de tirs parce qu'il fallait riposter et chasser l'ennemi du côté de la frontière, le ramener chez lui. Comme bilan, il y a un militaire de l'armée rwandaise qui est tombé et dont le corps a été récupéré par ses frères d'armes. Au niveau de la 34e région militaire, tout est déjà mis en œuvre pour saisir le mécanisme conjoint de vérification élargie.
Signalons que des incidents sécuritaires impliquant les deux armées dans cette partie des Nyiragongo sont souvent rapportés. Les deux armées s'accusent de violations des limites. Pour une solution durable à ces postes, Mambo Kawaya, président de la société civile des Nyiragongo, propose le déploiement d'une unité et des forces spéciales pour protéger ces lieux et mettre fin au trafic frauduleux et aux mouvements incontrôlés signalés. Parlons en plus bref de l'affaire Chérubin Okende. Trois leaders de l'opposition demandent les démissions des deux juges de la Cour constitutionnelle, à savoir Dieudonné Kamuleta et Sylvain Lumu. Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, Augustin Matata Ponyo du parti LGD et Délice Sanga du parti Envol ont co-signé mercredi une lettre. Ces trois leaders politiques reprochent aux juges d'accorder aux médias des interviews sur l'assassinat odieux de Chérubin Okende dans le but d'éclairer l'opinion publique sur ces crimes, marchant sur l'obligation générale des réserves, des dignités et des loyautés envers l'État. Par conséquent, ils demandent à ces deux juges de se rendre à la justice et de démissionner. Santé à présent, accalémie légère diminution des cas de choléra depuis le début de cette semaine, précisément dans les zones de santé de Kalemie et Nyemba. Déclaration faite hier par le médecin chef des zones de santé de Nyemba. Docteur Nadej Ramazani informe que les deux zones de santé ont enregistré plus de 200 cas de choléra et zéro décès depuis début juillet. Elle souligne que ces zones de santé ont encore besoin d'intras pour prévenir cette maladie. On écoute Docteur Nadej Ramazani au micro de Paul Mounanga.
Il y a plusieurs besoins en termes de sites de chloration, en termes de désinfection pour arriver à installer des sites de chloration. Le besoin en parasol, en seau, en gobelet, en chaise, en table. Parce que avec la Croix-Rouge, il y a un appui en site de chloration. Mais sur terrain, ces sites de chloration ne sont pas retrouvés. Nous retrouvons quelques sites. La population à ce jour avec l'eau pour leur dire que allez à tel endroit pour aller recevoir le chlore dans l'eau. On a une cartographie qui nous a été donnée, mais en allant sur les lieux, on ne retrouve pas ces sites. Nous avons un besoin de désinfection. Au niveau de cet MD, ils sont débordés. Normalement, quand un malade arrive qui fait le choléra, on désinfecte le véhicule ou la moto qui a amené ce malade. Et on doit normalement les désinfecter au niveau du ménage. Là où il y a eu le choléra, on désinfecte toute la maison, on désinfecte le voisinage et les latrines. Mais ils sont butés à un problème logistique.
Rendons-nous dans les territoires de Calais au sud Kivu, où des cours de récupération sont organisés actuellement pour les élèves de Bouchouchou et Nyamukubi, villages meurtris par les inondations du 4 mai dernier. Ces élèves étaient dans l'incapacité de reprendre les chemins de l'école après cette tragédie. Parmi les disparus lors de cette catastrophe, l'on a dénombré 1012 élèves dans la sous-division de Calais 1 et 14 membres du personnel soignant. Le directeur provincial de l'EPST sud Kivu 1 explique tout le processus de rattrapage scolaire pour que les élèves survivants n'aient pas de pas leur année. Simon Zono est au micro de Rachel Kiesimbangu.
Au total, 33 écoles avaient été touchées par cette calamité naturelle. Alors, les cours dans ces écoles-là étaient momentanément arrêtés. Certaines écoles ont connu cet arrêt momentané des cours pendant 3 semaines, d'autres pendant 1 mois. Nous sommes allés à Nyamukubi et à Bouchouchou et nous nous sommes ralliés à l'équipe de la coordination locale qui est en train de travailler pour le relèvement de cette population sinistrée, pour la résilience de cette population sinistrée. Ces écoles-là qui ont connu un arrêt des cours avaient clôturé l'année scolaire comme prévu et les évaluations de fin d'année ont été faites en fonction des matières qui étaient enseignées avant la survenue de cette catastrophe. Mais maintenant, grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, nous avons levé l'option de pouvoir organiser des cours de récupération pendant les vacances. Donc, en ce moment où je parle, ces cours sont en train de se dérouler pendant une période juste d'un mois.
Et dans la province du Maniema, les plateformes politiques participent depuis jeudi à Kindu à un séminaire de renforcement des capacités de 2 jours organisé par l'Institut pour la démocratie et le leadership politique avec l'appui de la Fondation allemande Konrad Adenauer. Les participants apprennent comment les partis politiques doivent se comporter pendant les processus électoraux en cours. Professeur Mabiala Pamphile, directeur général de l'Institut pour la démocratie et le leadership politique, explique l'importance de cette formation. Il s'est confié à Florence Kizalunga.
Un séminaire de renforcement de capacités, formation des partis politiques, au rapport qui existe entre les partis politiques et les processus électoraux. Mon informat, c'est avoir un processus électoral transparent, apaisé, inclusif, qui permet aux partis politiques de suivre le processus, d'être bien informés à temps et pas contre temps, et surtout de dialoguer entre les forces politiques, car la majorité de l'opposition, des occasions qu'ils n'ont pas tous les jours, et en même temps d'être au courant des problèmes de l'état des lieux du processus électoral en cours, où y a-t-il des questions à poser, qu'est-ce qu'il reste à faire et comment se comporter pour finaliser le processus. Parce que les élections, c'est une opportunité pour consolider celui qui a bien travaillé, il peut rester au pouvoir s'il a bien travaillé, chasser ceux qui ont mal travaillé du pouvoir. C'est un moment de changement et d'alternance politique, le moment des élections. Et donc nous attendons à ce qu'on va en aller voter en âme et conscience, on va voter utile. L'utile, c'est l'intérêt général, pas l'intérêt des individus, pour que le pays soit géré avec des programmes de paix et programmes qui garantissent la démocratie, l'état des droits, la paix et le développement.
Actualité internationale.
L'ancien président américain Donald Trump est visé par des nouveaux chefs d'inculpation dans l'affaire sur sa gestion négligente des documents confidentiels à son départ de la Maison Blanche, un dossier pour lequel un procès est programmé en mai 2024. Les procureurs fédéraux, dans un document judiciaire publié jeudi 27 juillet, reprochent notamment aux favoris de la primaire républicaine pour la présidentielle de 2024 d'avoir tenté de faire effacer des images de vidéosurveillance de sa résidence de Floride afin d'éviter qu'elle ne tombe aux mains des enquêteurs. Un troisième homme employé de cette résidence a également été inculpé dans cette affaire, révèlent ses documents judiciaires.
L'invité.
Les travaux de reconstruction du marché de Mayangose à Beni financés par le gouvernement sont à l'arrêt. Kinshasa aurait pourtant débloqué plusieurs centaines de milliers de dollars pour financer ces travaux. Qu'est-ce qui justifie l'arrêt de ces travaux? Pour en parler, nous recevons la présidente de la Fondation Mapati, Ege Mapati, qui dit être parmi les personnes à avoir plaidé pour la reconstruction de ces marchés publics en faveur des femmes marchandes généralement déplacées. Ege Mapati est interrogée par Sadiki Aboubakar.
Ege Mapati, bonjour.
Bonjour, monsieur Aboubakar.
Quel est l'état d'avancement des travaux, la reconstruction du marché Mayangose de Beni après son incendie, 4 mois après leur lancement?
Je dirais actuellement, il y a arrêt des travaux. Il y a encore un grand travail à faire.
Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas encore été fait?
Effectivement, les travaux n'auraient pas dû aller jusqu'à 4 mois.
Et les travaux ont été financés à quelle hauteur?
$200,000.
Pour la construction d'un bureau du marché, des 5 dépôts et des toilettes pour le marché et les hangars pour les femmes marchandes.
Les hangars, normalement, on devait en avoir 3.
3.
Ils ont dû fusionner les 3 hangars en faire 2. Oui, à cause de l'espace.
Hangars
ont...
modernes.
Oui.
À ce stade, il n'y a que 2 hangars.
Il y a 2, oui.
Inachevés qui sont visibles sur le terrain.
Oui.
Il
n'y
a pas de toilettes construites, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de dépôt construit.
Il n'y a pas. Avant de venir, j'avais contacté le ministre des Affaires humanitaires. Le ministre m'a dit ceci. Vas-y, cherche un ingénieur, évalue les travaux et quand tu vas revenir, je trouverai un moyen pour finir les travaux. C'est-à-dire, le ministre des Affaires humanitaires, il sait très bien que les travaux sont inachevés.
On peut évaluer à quel pourcentage l'état du travail qui a été fait par rapport à ce qu'on attendait actuellement?
Moi, je peux dire c'est à 40%.
En vous entendre parler, Mapati, on a l'impression que vous n'êtes pas satisfaite des travaux effectués jusqu'ici.
Non.
Est-ce que vous confirmez les soupçons de détournement des fonds alloués par le gouvernement pour ces travaux?
Ben oui, puisque il y avait du cash. C'est moi qui ai suivi les dossiers du début à la fin. Jusqu'à la signature. Comment, avec du cash, 4 mois après, les travaux ne sont pas achevés? C'était $200,000 pour la construction du marché de Mayangose.
Le gouvernement a financé les travaux à travers le ministère des Actions humanitaires qui a utilisé la caisse de la solidarité nationale et gestion des catastrophes pour mettre en œuvre ces projets. Mais vous, vous insinuez un détournement. À quel niveau est-ce que le détournement a pu se faire? Qui aurait détourné les fonds alloués?
Non, à ce niveau, je ne sais pas. Moi, je sais que il y avait du cash, 200 000. Quand nous sommes arrivés, vu les timings et ce qui est présenté, ce qui a été fait comme travail, et pour eux, disent que les travaux sont finis. Moi, je me dis, il y a eu des tournements, puisque là, le ministre des Affaires humanitaires m'a demandé de venir évaluer et voir dans quelle mesure il me cherchera l'argent pour venir finir les travaux. Donc, pour lui, l'argent est fini. Les $200,000 sont finis, il n'y a plus rien. L'ingénieur que j'ai amené, il a dit il faudrait les renforcements de la toiture. Apparemment, quand il y a le vent, selon les témoignages des vendeuses, l'hangar bouge. C'est un autre danger. En fait, les étalages que moi j'ai vus, franchement, c'est honteux, c'est ridicule et c'est énervant. Et puis, les étalages en question sont vendus aux femmes déplacées des guerres, aux vendeuses. On leur demande $10 pour accéder, oui, à un étalage. Parce que c'est pour un privé.
Construit par un privé.
Construit apparemment par un privé.
Dans les hangars.
Dans les hangars financés par le gouvernement.
Vous avez dit que vous avez plaidé pour que ces marchés soient reconstruits et vous avez obtenu le financement du gouvernement.
Oui, c'était du cash.
Oui. Pour honorer l'image de vos efforts, qu'est-ce que vous comptez faire?
Je vais présenter les devis.
Et la suite ne dépend pas de vous.
La suite ne dépend plus de moi. moi j'ai plaidé, c'est le ministre en fait des affaires humanitaires qui a envoyé son équipe ici, les devis je veux présenter, et c'est à lui maintenant de voir. Je dirais aux mamans que moi je me suis battue pour que on leur construise un marché moderne à l'image du chef de l'État. Malheureusement, l'équipe qui a été envoyée ici n'a pas exécuté les travaux à la hauteur du montant alloué.
Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec de votre part?
Non, c'est pas un aveu d'échec de ma part puisque c'est pas moi qui ai exécuté les travaux. Par contre, c'est une désolation.
Eje Mapati, merci.
Merci beaucoup.
Notre invité, Eje Mapati, répondait aux questions de Sadiki Aboubakar. Ainsi s'achève ce radio-journal coordonné et supervisé par Alain Rungmouchins et mis en onde par Mimi Kindou. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de la matinale avec Kaki Akiewa.